Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça fait combien de temps? Bah oui, ça fait combien de temps? Bientôt 10 ans, je crois, hein, que l'on s'accompagne chaque jour, que l'on réfléchit ensemble. Il s'en est passé des choses en 10 ans. On en a écrit des histoires, on en a vécu de grands bonheurs, de grandes joies, de profondes peines aussi. On en a mené bien des combats. Mais ce que nous vivons depuis le mois de mars a ceci d'unique et d'éprouvant qu'il est collectif. L'épreuve que nous traversons nous concerne tous, même si elle nous touche à des degrés différents. Bon, ça y est, en tout cas, nous y sommes, à ce mercredi dont tout le monde parle, à ces quelques heures des annonces d'Emmanuel Macron. Les rumeurs, les spéculations vont bon train, la tension monte, la colère gronde parfois, les revendications légitimes sont nombreuses et l'inquiétude nous étreint. Alors quelles sont les nouvelles mesures qui seront rapidement mises en place pour lutter contre l'épidémie de ce foutu ou cette foutue Covid-19? Bon, on va pas se mentir, elles auront quoi qu'il arrive, sans doute le goût d'un déjà-vu, l'ombre d'un reconfinement plane au-dessus de notre tête. Alors ici, dans en effet, pour s'entendre, on va tenter de lutter avec nos petits moyens contre la morosité qui s'installe. On ne va pas se laisser aller. On va donc se préparer ensemble afin d'aborder le mieux possible ces annonces de ce soir pour les petits, pour les grands et ne pas laisser la colère ou l'abattement s'emparer de nous. Allez, ça va aller. Bonjour Sébastien Boller.
Bonjour Flavie.
Soyez le bienvenu, merci d'être avec nous Sébastien. Vous êtes rédacteur en chef de Cerveau et Psycho et vous êtes chercheur en neurobiologie, auteur d'un ouvrage « Où est le sens ?» chez Robert Laffont. Alors là, pardonnez-moi, mais on peut chercher du sens partout. Dans cette histoire de Covid, c'est quand même très très difficile d'en trouver, hein, on est d'accord.
Oui, c'est le contraire justement d'une situation qui fait sens. C'est une situation qui rappelle plutôt le chaos, l'imprévisible, l'incertain. Qui est le contraire du sens hein, pour notre cerveau. Notre cerveau adore trouver des règles, de pouvoir se projeter dans l'avenir, diminuer le degré d'incertitude dans notre environnement. Et là, il est confronté à une situation qui réunit les ingrédients exactement contraires, c'est-à-dire quelque chose d'imprévisible, de chaotique, qui évolue chaque jour, on ne sait pas où on va. Et ça, c'est très très difficile à gérer pour notre cerveau.
À vos côtés aujourd'hui, Christophe Hag. Bonjour Christophe, merci d'être avec nous.
Bonjour Flavie.
Alors vous êtes professeur à l'EM Lyon, vous êtes chercheur en psychologie sociale et auteur de La contagion émotionnelle chez Albin Michel. C'est ce contre quoi il faut lutter justement, la contagion émotionnelle?
Une ampleur assez forte. Et moi j'ai juste envie de vous donner une première citation, c'est celle de Yoda. La peur est le chemin vers le côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Bon, il faudra éviter d'arriver jusqu'à la souffrance ou le terminus.
Alors, il y a la contagion émotionnelle dite positive, je dirais. Hein, dans ce cas-là, c'est ce qu'on va essayer de faire jusqu'à 16h, de se dire, bon, attendez, on va tous attendre et on réagira en conséquence. Et puis, il y a la contagion émotionnelle dite négative, qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, même avant de savoir, puisqu'on reste dans l'inconnu, hein, Sébastien Boller vient de le dire, avant de savoir, on est tous, en tout cas, certains d'entre nous sont dans des états proches du craquage.
Vous savez, en gros, le cerveau humain reçoit des dizaines de milliers de pensées, en fait. Il en produit des dizaines de milliers par jour. Ça vous fait à peu près une pensée toutes les deux secondes. Et c'est vrai que, bon, on l'observe, mais de manière clinique et même de manière statistique, ces pensées, elles sont de plus en plus négatives. Elles sont de plus en plus toxiques. C'est plus un simple nuage qui passe, vous savez, au-dessus de la tête. On se dit, tiens, on espère que le Mistral va souffler et que ça va partir. On a l'impression que là, ce gros nuage gris, il est juste au-dessus de notre tête. Et donc là, on se tourne en boucle un petit peu tout ça. Je crois qu'il y a une première chose en fait à faire, c'est accepter aussi, accepter la situation et accepter en fait un mécanisme qui est un mécanisme d'essai-erreur. C'est-à-dire que là, voilà, on a tenté des choses la première fois. Il y a des choses qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. On n'a pas encore complété le process. On n'a pas encore solutionné exactement tout ça. Bah voilà, on fonctionne en mode essai-erreur. Donc l'acceptation, je pense que c'est difficile. Hein, je dis pas que c'est facile. Mais je crois que c'est la vraie clé. Et l'acceptation, elle est rendue d'autant plus facile que vous arrivez à un moment à positiver. Et à un moment, faut faire un bilan. Hein. Il y a une colonne à gauche, une colonne à droite, et juste essayer de trouver aussi tout ce qui marche aussi dans sa propre vie. Quand vos enfants ont la santé, pour ceux qui ont encore un travail, voilà, ça compte. Commencez à empiler un petit peu tout ça pour contrecarrer toutes ces pensées négatives, éviter qu'elles s'ancrent comme ça et qu'elles nous rongent de l'intérieur.
Alors, il en est une qui nous écoute, c'est Marie, et je pense que ça la fait doucement sourire. Bonjour Marie.
Bonjour Flavie, bonjour tout le monde.
Pardon de le dire comme ça Marie. Non mais c'est vrai, on n'est pas tous, on ne réagit pas tous de la même manière. Et vous, on a beau vous dire, bah, essaye de voir ce qui va dans ta vie, vous commencez à en avoir ras-le-bol quoi.
J'ai des inquiétudes au niveau économique, ouais. mais effectivement j'ai essayé d'adopter cette réflexion pendant le confinement, à me dire que j'avais un toit sur la tête, mes enfants étaient en pleine santé et j'ai profité de mes enfants de manière que j'aurais jamais pu faire dans un autre contexte.
C'est clair.
Donc j'ai essayé de voir ce côté-là pendant le premier confinement. Aujourd'hui, l'aspect économique, si reconfinement total il y a, m'inquiète vraiment. Mmh. Et c'est vraiment juste ça qui me stresse, mais j'essaye pareil de prendre du recul en me disant, on ne sait pas.
Et vous êtes stressée quand même.
Avant de stresser, quoi. Oui, mais je suis une Covid stressée depuis le mois de mars. Donc, de toutes les manières.
Voilà, vous vivez dans l'angoisse aujourd'hui.
Ah oui, ça c'est sûr, mais j'essaye de prendre du recul.
Est-ce que cet été, vous vous sentiez définitivement à l'abri? Est-ce que vous faites partie de ceux qui se sont dit... Alors, je ne vous parle pas de l'application des gestes barrières, parce que ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Hein. C'est vraiment notre façon d'appréhender les choses. Est-ce que vous vous êtes dit cet été, bon, voilà, on aura vécu un confinement dans notre vie, et de toute façon, quoi qu'il arrive, ça ne se reproduira pas?
Ah non, pas du tout.
Ah, vous pensiez que ça pourrait se reproduire? Moi, je fais partie de ceux qui se sont dit que c'était pas derrière nous, mais en tout cas que, bon, on l'avait vécu une fois et ça se... On ne se poserait pas la question à l'avenir.
Moi, ouais. j'étais assez persuadée depuis le début que ça reviendrait à l'automne. Je ne pensais pas qu'on irait jusqu'aux vacances de la Toussaint sans problème.
Ouais.
Cet été, on a limité les interactions, on a limité les activités aux grandes dames des enfants. Ouais. Mais il y a tout un tas de choses que je me suis refusée de faire et que je refuserai toujours de faire avant un bon moment.
Alors, on va se retrouver ensemble, hein, Marie, sur cette antenne. Il y a Christophe qui va nous rejoindre et évidemment Sébastien Boller et Christophe Hague qui vous écoutent, avec lesquels nous poursuivrons notre conversation. Nous sommes en direct, à tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Vous êtes sur RTL et aujourd'hui nous vous proposons une émission liée à l'actualité. Hein, voilà, on va rentrer dans une période encore visiblement compliquée. Des annonces seront faites ce soir par Emmanuel Macron à 20h. Vous pourrez les entendre en direct sur RTL. Des annonces que l'on voit se dessiner, se profiler, même si nous n'avons pas accès réellement aux mesures qui seront édictées ce soir. Alors tout ça nous met dans un état évidemment de fébrilité. Un état qui est partagé par nous tous, puisque je vous le disais en début d'émission, c'est une expérience douloureuse collective. Sébastien Boller est notre invité, Christophe Hague également. Ils sont respectivement chercheurs en neurobiologie et chercheurs en psychologie sociale. Et Marie, vous êtes en ligne avec nous et vous nous avez expliqué que vous vivez finalement dans l'angoisse depuis le mois de mars et que l'annonce de ce nouveau confinement éventuel ne vous surprend pas. En tout cas, vous n'aviez pas considéré que le premier était le dernier. Hein, ça, c'est quelque chose que vous aviez déjà en tête. Vous êtes dans l'inquiétude cet après-midi des annonces qui seront faites ce soir?
Assez, même si j'essaye de prendre du recul, mais c'est vrai que ayant un petit en CP, ouais, avec des difficultés scolaires, la maîtresse nous a clairement dit qu'un confinement avant les vacances de Noël, donc avant que toutes les bases de la lecture soient mises en place, pourrait être très difficile, pourrait rendre très difficile la suite du CP pour certains enfants. Mmh. Et ça, j'avoue que ça fait partie des sujets qui me travaillent, oui.
D'accord. Donc effectivement, c'est pas simplement l'inconnu, mais ce sont les conséquences. Hein, on l'entend bien de ce nouveau confinement s'il est prononcé. Christophe est en ligne avec nous, il va nous rejoindre. Bonjour Christophe.
Bonjour Flavie.
Soyez le bienvenu. Vous avez 37 ans, vous avez sensiblement le même âge que Marie. Les choses sont différentes pour vous, hein. C'est-à-dire que vous prenez les choses avec une certaine philosophie, je dirais.
Quand même, il y a des sujets où je suis quand même assez d'accord avec elle. Ouais. Mais oui, je prends les choses avec philosophie. De toute façon, on n'a pas le choix. Il n'est pas encore 20h, rien n'a été prononcé, donc on a beau faire des pronostics et à longueur de journée, enfin depuis 24h déjà, on a le droit à tous les médias qui font des pronostics, les gens sur les réseaux sociaux qui font des pronostics, mm-hmm, mais rien n'est joué entre guillemets.
Et puis tout le monde a un cousin qui connaît un cousin, qui c'est connaît ça, quelqu'un au ministère, qui, on est d'accord.
C'est exactement ça. Et du coup, ouais, c'est ça qui crée pour moi, c'est ça qui crée la tension et la peur en fait. C'est pas... Le sujet est déjà anxiogène, on va pas se leurrer. Mais je pense que les gens créent cette peur, et en fait, je pense qu'il faut prendre les choses comme elles viennent.
Est-ce que vous pensez, pardon de le dire de cette façon-là, mais qu'on se monte tous un peu la tête inutilement de toute façon, puisque jusqu'à 20h, ça ne servira absolument à rien?
Pour l'instant, c'est un peu ce que je me dis. Je me dis, ça sert à rien que les gens stressent. Je comprends que certains puissent stresser. Enfin, ça, après, on est tous différents. Mais je vois les gens se prendre la tête pour rien, en fait. Enfin, pour rien. Tant que rien n'est dit, ils vont faire des nœuds en disant « Ah ben, je vais faire comme ça. » Et on va leur annoncer à 20h que c'est peut-être pas ce qu'ils avaient pensé. Donc, du coup, il va falloir qu'ils se restressent pour
se réadapter autrement. D'accord, oui. Je comprends.
Pardon. Je sors de chez le barbier et le téléphone n'a pas arrêté de sonner, où les gens demandaient comment ils devaient faire. Mais le barbier n'a pas arrêté de leur répondre. Je ne sais pas, je ne suis pas à l'Élysée, je ne peux pas vous répondre.
Je note quand même que vous êtes super organisé, vous êtes allé chez le barbier aujourd'hui, vous.
À l'heure du calendrier, j'avais mon rendez-vous aujourd'hui.
Donc vous n'êtes pas allé faire un plein de PQ et dévaliser le rayon pâte dans le supermarché.
Alors, je travaille dans le commerce. Donc c'est quelque chose qui me met assez hors de moi. Enfin, je veux dire, on l'a vu pour le premier confinement, il n'y a pas eu de pénurie et il n'y en aura pas plus là cette fois-ci. Donc quand je vois que vos collègues tout à l'heure à la radio disaient qu'il y avait déjà des ruées dans les commerces, enfin, moi ça me met hors de moi. Je me dis, je veux bien que les gens stressent, s'inquiètent, mais on a vu que tout fonctionnait normalement. Il n'y a pas de raison à ce niveau-là de stresser. Je pense que les gens peuvent stresser sur d'autres choses, mais pas sur ça.
Alors, on va se retrouver dans un instant. Sébastien Boller, Christophe Hague, vous venez d'entendre les témoignages et de Marie et de Christophe. Et vous allez pouvoir nous donner votre point de vue, justement, sur la question et peut-être nous apporter certains éclairages. Émilie nous écrit « Autant j'ai mis toute mon énergie à vivre au mieux le premier confinement, mais je sens déjà l'usure à l'approche d'un éventuel nouveau confinement. C'est maintenant que je m'écroule. » On se retrouve tout de suite sur RTL.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Marie est en ligne avec nous. Marie, elle est dans l'angoisse depuis le mois de mars et les annonces d'Emmanuel Macron la projettent quand même dans certaines inquiétudes. Christophe, lui, il se demande pourquoi se faire des nœuds au cerveau alors que l'on ne sait rien de ce qui va être annoncé ce soir à 20h par Emmanuel Macron. Il y en a même qui s'inquiètent pour leur barbe aujourd'hui et qui n'ont eu de cesse d'appeler son barbier il y a quelques instants quand il était lui-même en rendez-vous. Donc ça veut dire qu'on se prend même la tête sur notre système pileux. Alors, réaction Sébastien Boller, Christophe Hague. Sébastien Boller, voilà, Marie et Christophe n'ont pas le cerveau qui fonctionne de la même façon, je dirais.
Oh oui, enfin, ça se rejoint un peu ce qu'ils disent. Je trouve que ce que dit Christophe est très très important. Ça doit nous servir de ligne de conduite, c'est-à-dire que l'idée de prendre les choses avec philosophie, c'est la clé. C'est-à-dire que on voit très bien que face à une situation dont on ne maîtrise pas finalement le déroulement, il y a une arborescence de possibilités comme ça qui se présentent devant nous. On ne sait pas ce que le gouvernement va dire, on ne sait pas comment le virus va évoluer, on ne sait pas si les écoles vont fermer, on ne sait pas s'il sera du confinement total, partiel. Le nombre d'inconnus est tel que ce n'est pas gérable, en fait, pour un individu normal. Et on est piégé quelque part par un fonctionnement qui est celui de notre cerveau. Notre cerveau, c'est une machine à scénario. C'est-à-dire qu'il a un circuit qui est logé entre ces deux hémisphères, qui s'appelle le cortex singulaire, qui passe son temps à essayer d'imaginer les différents scénarios possibles. Alors, c'est très utile quand on est aux commandes de la situation, quand soi-même on est en prise finalement avec son environnement immédiat, sa famille, l'organisation de sa vie professionnelle. Ça permet de choisir les meilleures options. Et donc, c'est pour ça que ce circuit existe. Il nous aide toujours à optimiser en imaginant les diverses alternatives. Mais dans une situation telle que la nôtre, là, où le phénomène est planétaire, où le nombre de paramètres est tellement énorme, eh bien, cette partie de notre cerveau n'arrive pas à s'arrêter. Et donc, elle passe son temps à prendre des virages à gauche, à droite. Oh, une nouvelle bifurcation. Et là, s'il se passe ça, qu'est-ce que je fais? Et c'est infini. Elle n'arrive pas à s'arrêter, donc ça rentre en surchauffe. Et là, ça libère des hormones du stress, alors la noradrénaline, le cortisol, et puis on n'en finit plus. Donc, il faut savoir que ce qui est un avantage à un moment dans le mode de fonctionnement habituel, cette machine à scénario devient une véritable torture. Donc, il faut pouvoir quelque part la disjoncter, la mettre hors circuit, la mettre un petit peu à l'ombre. Alors, comment faire ? Christophe a raison. Il faut plus un peu se focaliser sur les choses simples de notre environnement, voire pas forcément à l'échelle d'une semaine ou deux semaines, mais qu'est-ce que je vais faire cet après-midi ? Ne pas forcément passer son temps à circuler en boucle sur les réseaux sociaux ou sur les chaînes d'information continue qui nous montrent des images catastrophistes, parce qu'à ce moment-là, on rentre dans des ruminations et on n'arrive plus à en sortir. Et beaucoup d'études ont montré qu'à ce moment-là, on a une perception du risque qui déborde de très loin la réalité. Donc, il faut énormément se méfier de ça. Donc, la règle, ça, c'est vraiment de revenir à « bah tiens, qu'est-ce que je peux faire qui me plaît cet après-midi ? Je vais faire une recette de cuisine. Je vais lire un livre qui va m'absorber, qui va éteindre tous ces scénarios pour me permettre de me refocaliser sur quelque chose qui m'absorbe dans l'instant et qui m'empêche de partir dans tous les sens, de me faire des films qui n'ont plus ni queue ni tête. » Et tout particulièrement, si on est une personne qui a ce qu'on appelle un faible niveau de tolérance à l'incertitude. On a vu dans le premier confinement, les gens qui se jetaient sur les papiers toilettes et sur les pads avec qui faisaient des réserves. On sait très bien en psychologie qu'il y a une échelle de mesure de la personnalité qui s'appelle la tolérance à l'incertitude. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui acceptent très bien, qu'il y a plein de choses qu'ils ne maîtrisent pas dans leur vie. Okay. Et d'autres qui ne supportent pas. Et c'est cela qu'on va retrouver dans les rayons de pâte et papier toilette. Et c'est cela qu'on va retrouver ensuite en anxiété, en dépression. Donc, il faut se connaître à ce niveau-là. Peut-être faire un petit examen personnel pour se dire, OK, je tolère mal l'incertitude. Donc, il faut que j'arrête ma machine à scénario. Il faut que j'organise mon quotidien à court terme pour vivre de façon plus apaisée.
Alors, en même temps, Christophe Hague, certains peuvent, en écoutant ce que nous dit Sébastien Boller, se dire, alors peut-être que Marie, vous allez me rejoindre sur cette idée, dites-le-moi, se disent, oui d'accord, mais enfin, moi si je prévois pas, je peux être un peu pris au dépourvu. Marie, vous êtes un peu dans cet état d'esprit ou pas ?
Ah mais moi je suis une maniaque du contrôle, donc effectivement, toute cette incertitude depuis le mois de mars ne m'aide pas à prendre du recul, même si j'ai la volonté de prendre ce recul.
Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que je peux comprendre ceux qui se disent, bon, alors attends, c'est bien, moi, j'attends 20 heures, mais si à 20 heures, il faut que je réagisse et que j'ai peu de temps pour le faire, je suis pas persuadée d'avoir le cerveau disponible. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Christophe Hague?
On peut déjà avoir un message quand même assez positif parce qu'il y a quand même une routine qui s'est aussi installée face à Covid. Donc derrière, même dans vos différents auditeurs, dans les témoignages, on entend quand même de ah, j'ai pas été surpris, je suis pas surpris. Donc déjà, on a diminué un petit peu l'intensité des mauvaises surprises. Donc on s'est déjà habitué à avoir les mauvaises surprises. Donc ça, le cerveau est un outil qui s'adapte formidablement bien à toutes ces tous ces changements. Et là, on est sur des changements un petit peu lancinants. Donc il commence déjà à rentrer dans une espèce de forme de routine. Et là, j'ai juste envie de délivrer ce message. Faut qu'on ait plus confiance en nous-mêmes. Moi, je travaille avec des personnes qui sont face à la mort, que ce soit des gens du raid, des personnes qui ont failli mourir dans des expéditions en haut du K2 ou de l'Everest. Et toutes ces personnes, avant la catastrophe, étaient toutes persuadées que bah non, j'y arriverai pas, si je suis face à cette situation là, tout va exploser, ça va craquer de partout. Et elles ont réussi à s'en sortir. Elles ont réussi à s'en sortir parce qu'on a tous en nous aussi un potentiel de résilience qui est insoupçonné. Et ça, j'ai vraiment envie de le dire parce que on croit pas assez en nous, mais voilà, il y a cette force, il y a cette puissance là de l'adaptation qui existe. Après, moi, je partage tout à fait aussi le point de vue de Sébastien parce que derrière, j'ai envie de vous dire que plus c'est compliqué, moins il faut réfléchir au sens analytique du terme. Et ça, vous avez plein de travaux en neurosciences qui vous le montrent, notamment des travaux qui s'intéressent au système intuitif et qui vous disent que, grosso modo, lorsqu'on réfléchit trop, lorsqu'on est trop dans l'anticipation, effectivement, derrière, on génère aussi pas mal d'angoisses qui peuvent être paralysantes. Et là, on tombe peut-être après dans une forme de panique. La peur nous sauve, la panique nous tue. Donc, tout est une question de niveau d'échelle, d'intensité. Et l'autre chose, Flavie, il y a un truc essentiel.
On n'est pas seul.
C'est-à-dire qu'on est tous, en fait, dans cette même mare.
Je disais, c'est collectif. Ouais.
C'est collectif. Et donc là, ça peut aussi aider, d'une certaine manière, à se décharger de ce poids qu'on croit être simplement sur nos épaules. Non, on vit tous ensemble. Et ce qui nous caractérise, nous, l'espèce humaine, c'est justement ce lien, c'est la synergie empathique entre nous. C'est ce qui fait notre force, d'ailleurs. On n'a pas les incisives d'un T-Rex, on n'a pas les muscles de je ne sais pas quelle créature. C'est parce qu'on a réussi à s'organiser en collectif, parce qu'on vit les choses cellulairement, collectivement. Donc là, essayons de les vivre aussi ensemble. Et ça nous... Voilà, on lâchera un peu du lest.
Merci beaucoup, messieurs, pour votre éclairage avisé. Sébastien Boller, où est le sens? C'est chez Robert Laffont. On vous recevra bientôt à ce sujet. Et Christophe Hague, la contagion émotionnelle. On le retrouve chez Albin Michel et ça peut en aider certains. Merci à vous deux, messieurs. Christophe, Marie, rendez-vous demain, hein, d'accord, sur nos réseaux sociaux pour savoir un petit peu ce qui aura été dit et comment on le vit. Merci à vous deux d'avoir témoigné. Je vous souhaite évidemment le meilleur possible. Voilà, je vous embrasse tous les deux. Merci beaucoup. On va faire un tour par l'information sur l'antenne d'RTL. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
Écoutez, l'humour, en tout cas, nous sauvera. Merci d'être avec nous jusqu'à 15h30. Alors, on vient d'entendre le flash d'information d'Alexandre de Saint-Aignan à 20h, les annonces d'Emmanuel Macron et quand même ce profil, visiblement, l'idée d'un reconfinement. Comment l'aborder au mieux? On vient d'en parler déjà pendant une demi-heure. Il en est une qui nous rejoint maintenant sur cette antenne, c'est Aurélia Schneider. Elle est psychiatre. Bonjour Aurélia, merci d'être avec nous.
Bonjour Flavie.
Alors c'est l'inconnu, hein, c'est ce que nous disaient il y a un instant nos invités. C'est l'inconnu qui fait qu'à un moment donné, on est dans une sorte d'état de panique générale, en tout cas une contagion émotionnelle pour certains, bien évidemment alimentée par les réseaux sociaux, par les médias qui cherchent absolument à fournir l'information au plus tôt et qui en même temps parfois plonge certains d'entre nous dans une inquiétude. Christelle nous écrit sur Twitter, si les gens ont plus peur du confinement que de la Covid, il y a un réel problème de communication. Moi, j'aimerais ce soir être juste reconfinée. Et puis par ailleurs, Barbara nous écrit, je suis en colère. Oui, en colère, pour moi, c'est un véritable cauchemar. Qu'est-ce qui fait qu'on n'appréhende pas forcément les choses de la même façon, Aurélia Schneider? L'une se dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, il va falloir sauver, la communauté en se reconfinant. Et Barbara qui dit, pour moi, c'est un véritable cauchemar.
Ben en fait, oui, c'est ça. On n'a pas tous la même façon de fonctionner. Il y en a qui sont sur un mode plus inquiet, avec une réalité, bien sûr. Hein. C'est évident que nous avons des épées de Damoclès au-dessus de la tête. Et puis d'autres qui sont sur un mode plus d'action. Chacun fonctionne différemment. Chacun fonctionne différemment. Et nos réactions sont l'empreinte aussi de ce que nous sommes.
Alors certains aussi, pardon hein, de le dire comme ça, certains aussi sont concentrés sur leur vie et leur capacité ou pas à s'adapter, et d'autres vont voir les choses d'une façon plus grande et plus collective. On ne porte pas le même regard sur l'épreuve que nous vivons.
Non, pas du tout. Et d'ailleurs, moi, je vois des patients qui ont des attitudes très différentes les uns des autres. Par exemple, vis-à-vis des transports en commun, il y a des gens qui prennent le risque de prendre les transports en commun tout en ayant effectivement conscience et utilisation de toutes les mesures barrières possibles, et d'autres qui sont très, très inquiets et qui, pour rien au monde, ne les prendraient. C'est ni bien ni mal. C'est différent, ce sont des modes de fonctionnement qui sont les nôtres chacun. Et alors les uns ont peut-être une possibilité de faire quelque chose que les autres ne peuvent pas faire, et les autres auront une possibilité que les premiers ne peuvent pas faire non plus.
Alors, Alexandre de Saint-Aignan a pris l'antenne tout à l'heure pour nous donner les dernières informations, hein, selon la rédaction d'RTL. Et le confinement semble se préciser. Sacha nous écrit, je suis comme Émilie. Émilie qui tout à l'heure nous disait que l'idée d'un deuxième confinement était vraiment douloureux. Si le premier confinement m'est apparu comme une expérience nécessaire, ce deuxième a des allures de punition. Auparavant, tout le monde était dans l'action et on a le sentiment aujourd'hui que les gens ne veulent plus subir.
Oui, c'est-à-dire qu'un deuxième confinement, on a vécu une première expérience avec aussi, pour certains, des traumatismes d'avoir été isolé, seul, avoir eu très peur, aussi avoir eu des gens de l'entourage qui ont été malades ou qui ont disparu, des expériences particulièrement traumatiques quand même. Donc, il y a eu un recul, il y a eu on a pu discuter aussi de ce qu'on avait vécu les uns les autres. C'est sûr que quand on ne connaît pas, on ne sait pas. Maintenant, on sait ce que c'est.
Il y a comme un, alors évidemment c'est beaucoup moins dangereux, enfin c'est complètement différent, mais il y a comme cette idée de refaire un grand saut dans le vide, ou un grand saut à l'élastique, ou un grand saut en parachute. La première fois on y va, on est dans l'ignorance, et puis ouais. on se dit de toute façon que tout ça aura une fin. La deuxième fois, quand on nous dit ouais. y retourner, un peu la flemme, oui. hein, Laurence. Laurence, elle nous l'écrit, hein, la perspective d'un nouveau confinement me met le moral littéralement à zéro.
Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois que ce qui nous parasite, c'est l'idée que nous n'en sortirons jamais.
Voilà.
Parce
c'est ça.
Que le premier confinement, on est parti. J'ai envie de dire entre guillemets, bien entendu, la fleur au fusil. Allez, on va s'organiser, on va être courageux, on va faire ce qu'il faut. Et là, de nouveau, y a une deuxième vague et peut-être un reconfinement général, je ne sais pas. Et là, on se dit, mais bon sang, ça a servi à quoi ? Voilà. Et on n'en voit pas le bout. Et je crois qu'il ne faut pas tout mélanger là aussi. Attention, je ne sais pas, on ne sait pas quand ce sera la fin. Un jour, ça s'arrêtera.
Oui.
On ne sait pas quand ce sera. Donc, à chaque jour suffit sa peine. C'est sûr que ça ne va pas nous faire plaisir, beaucoup aux uns et aux autres, de devoir nous restreindre. Mais on ne sait pas jusqu'à quand.
Alors, on va retrouver Elodie dans un instant. Elle a décidé d'anticiper, justement. Donc, on va voir avec elle comment elle s'organise pour vivre au mieux et ses annonces et ce qui l'attend. À tout de suite.
RTL.
Flavie Flamand. 14h30, 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Et quand même, c'est pas faux ça, Aurélia Schneider, d'écouter de la musique qui fait du bien, de lire des ouvrages qui font du bien, de parler aux gens qu'on aime, d'aborder des sujets qui mettent du soleil. Ça peut nous aider aussi à mieux vivre ce qu'on est en train, l'épreuve qu'on est en train de traverser.
Ouais, tout à fait. Vous avez raison de essayer de trouver un moyen d'être plus léger. Et la musique nous aide, l'art nous aide, la lecture nous aide aussi, bien entendu.
Terriblement.
Et l'isolement, sortir de l'isolement à tout prix, avoir des gens autour de soi, mais peut-être par téléphone, ça peut aussi être suffisant, on le sait.
Oui, et puis peut-être essayer de partager à ces quelques heures qui nous séparent de l'annonce d'Emmanuel Macron, au lieu de partager des angoisses, des inquiétudes, des certitudes, des projections. Moi, j'ai un fil WhatsApp où ça délire dans tous les sens, où tout le monde s'envoie des informations, des trucs, des indignations, c'est hyper angoissant. Je fais partie de ce fil WhatsApp, et en même temps, il y en a un autre où on est en train de parler de choses un peu philosophiques, un peu positives. Je vous assure que j'ai plutôt tendance à aller sur le côté soleil, quoi.
Oui, de toute façon, je crois que vous avez raison aussi. C'est une déperdition d'énergie de tirer des plans sur la comète, etc.
Exactement.
On ne sait pas. Ce que l'on sait, c'est peut-être mieux aujourd'hui ce que nous serons capables de faire pendant un confinement. Peut-être que il faut aller acheter des réserves de bouquins. J'en sais rien.
Mais pas de PQ, parce qu'il faut arrêter avec ça, mais le bouquin,
oui,
vous avez raison.
Oui, stop, le papier à lire.
Exactement, allez chez vos libraires, lisez
Exactement.
Des livres, s'il vous plaît. Voilà, soutenez les libraires qui en ont évidemment besoin et qui font un travail formidable. Elodie est en ligne avec nous, figurez-vous qu'elle a pigé le truc, Elodie. Peut-être parce que Elodie, elle a eu un premier confinement auquel elle n'était absolument pas préparée. Et ça a été difficile pour vous. Donc là, vous vous êtes dit, ok, d'accord, j'ai 30 piges, j'ai vécu un premier confinement difficile, je vais faire en sorte d'anticiper le deuxième, et du coup, vous n'angoissez pas.
C'est ça. Bah, le premier, j'ai carrément fini en dépression, au point que c'est le médecin qui était venu me dire, mais là, il n'y a pas, il faut que tu sortes, il faut que tu bouges, si tu vas, tu vas dans les bois, s'il faut, ils ne diront rien, mais là, sors, c'est pas possible. Ouais. Et moi, j'étais même trop confinée, je ne sortais plus, même après le confinement, je ne pouvais plus tellement j'étais descendue bas, quoi. Donc j'ai dit non, là, on ne va pas recommencer la même chose. Donc cet après-midi, après ma permanence, je vais aller que des BD Glantier, comme ça, je pourrais faire des gelées. J'ai ressorti des cartons de livres, j'ai ressorti les machines de sport, j'ai acheté des piles pour ma manette de Wii. Enfin là, j'ai dit, il faut que je m'organise, quoi.
D'accord, ok. Justement, là, Aurélia Schneider, voilà quelqu'un qui appréhende les choses et a compris peut-être aussi de cette première expérience ce qui ne lui avait pas réussi.
Oui, exactement. On voit qu'il y a quelque chose qui a changé là, une prise de conscience et une prise de pouvoir. Je crois que Elodie, ce qu'elle raconte qui est génial, c'est qu'elle reprend le contrôle. Alors ça, c'est super, parce qu'en fait, ce qui se passe pour ce soir, c'est qu'on est tous en train de se dire, zut, pour être poli, zut, on ne sait pas ce qui va se passer, on perd complètement le contrôle.
Exactement.
Et en fait, je trouve qu'Élodie, elle est pragmatique. Élodie, elle dit, j'ai racheté des piles pour mes manettes, ça c'est extra. Parce qu'effectivement, il vaut mieux avoir des piles. Parce que si on veut jouer, si on veut s'alléger un peu, il faut que les instruments puissent fonctionner, bravo.
Oui,
c'est ça. Et le pire, c'est que j'ai pris des piles rechargeables. Comme ça, si jamais elle meurt pendant le confinement, sur la prise et ça recharge.
Non, mais bon, vous allez nous faire un guide du confinement, hein. Voilà, comme quoi certains, effectivement, se sont retrouvés dépassés par la situation. Et là où vous avez raison, c'est intéressant aussi, Aurélia Schneider, c'est que ce qui nous plonge dans l'inquiétude, parfois, c'est ce que l'on ne contrôle pas. Et là, on ne contrôle pas, de toute façon, les décisions qui sont prises par le président de la République qui nous seront annoncées ce soir à 20h sur RTL. On n'a aucun contrôle là-dessus, donc c'est même pas la peine d'y aller. Mais en même temps, on peut peut-être agir sur ce que l'on maîtrise. Et en l'occurrence, la préparation de cette nouvelle expérience collective et douloureuse. Merci beaucoup, Élodie, pour tous vos conseils.
Avec plaisir.
Et puis, on se tiendra au courant pendant les semaines qui viennent. Puis, Aurélia Schneider, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous, avec nos auditeurs.
Merci.
Vous parlez de lecture. Eh bien, je conseille La charge mentale des femmes et celle des hommes. Mieux la détecter pour prévenir le burn-out. En même temps, il s'est bourré de conseils très pratiques qui peuvent nous aider à mieux vivre aussi ces expériences douloureuses. Je vous embrasse, Aurélia. À bientôt sur RTL. Et nos enfants, alors, eh bien, on va en parler dans un instant avec Isabelle Payot.
On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour Isabelle Payot.
Bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue sur RTL, Isabelle. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue et thérapeute familiale. C'est dire si on a besoin de vos conseils quand même. Parce que derrière ces annonces-là qui vont être faites ce soir par le président, il y a l'idée d'un confinement, mais il y a aussi l'idée de la vie de famille. Et ça fait partie quand même des inquiétudes, des messages que l'on reçoit par mail. Notamment, on a Florie qui nous explique « Ok, d'accord, le reconfinement, ça marche, mais j'ai des enfants d'âge complètement différents et je vois se profiler encore une vie de famille compliquée et l'école à la maison. » Alors ça, effectivement, je peux comprendre que ça en saoule certains, Isabelle.
Oui, c'est très difficile puisque les parents en ont fait l'expérience au mois de mars.
Exactement.
Ils ont compris combien c'était douloureux de pouvoir à la fois travailler, puisque la majorité continue du télétravail, et faire les devoirs, superviser les devoirs d'un primaire, d'un collégien, d'un lycéen, etc. Donc, on n'a pas envie d'y retourner. C'est bien naturel. Mais là, malheureusement, c'est ce qu'on disait, on n'a pas la main, c'est ce que tout le monde a dit, on n'a pas la main sur ce qui nous arrive. Il va falloir qu'on lâche peut-être une envie de perfection. Au mois de mars, les parents avaient très envie de vraiment se montrer de bons parents, de bien faire, de pouvoir tout tenir. Ils savent que c'est pas possible, et ben ils vont faire du mieux qu'ils peuvent, et ce sera déjà bien, en fait.
Oui, alors en même temps, tout à l'heure, en début d'émission, on entendait Marie qui nous expliquait que son fils était en CP, que scolairement c'était compliqué, et qu'elle était hyper angoissée justement parce qu'elle se disait, bon, il n'aura pas les bases pour apprendre, et l'instituteur de dire, oui, effectivement, ça peut avoir de véritables conséquences. En même temps, pardon, on n'avait pas le temps là d'en parler avec Marie, mais on peut apprendre à lire à 6 ans et demi ou à 7 ans.
Mais bien sûr, et puis j'ai entendu Marie, et je me suis dit, ben non, on est au mois d'octobre, on va pas faire de pronostic pour le mois de juin. Ça se trouve, son petit bout de chou, il va tout d'un coup, tranquillement, en étant confiné à la maison, en lisant un petit peu tous les jours avec sa maman, ben ça va déverrouiller, il va s'y mettre. Donc on peut pas faire de pronostic si tôt sur la question de la lecture, et puis ça rajoute une charge, ça rajoute une angoisse à Marie, qui se dit, ben voilà, ça y est, c'est fichu, mon enfant va redoubler. Donc moi, je suis pas du tout OK pour ce genre de truc, parce que je trouve que c'est catastrophiste, alors que nos enfants, ils ont une belle résilience, ils ont beaucoup de capacités de ressources, et que si on les accompagne, ils vont pouvoir se déployer, même à la maison. Le problème, ce sera que ils verront pas les copains pendant un moment, ça c'est, j'allais dire, presque plus problématique que de savoir lire.
Alors justement, c'est l'inquiétude d'Alexandra au sujet de ses quatre enfants. Elle a deux fois, alors disons, elle a fait très fort Alexandra, deux paires de jumeaux, et elle nous explique justement que s'ils sont bien et s'ils vivent bien ensemble tous les quatre, ça va être très très compliqué d'être séparés une nouvelle fois de leurs amis. Comment, à un moment donné, tenir un discours cohérent, assez responsable auprès de nos ados, parce qu'ils ont 14 ans, les enfants d'Alexandra, auprès de nos ados qui sont à l'âge de la transgression.
Là, il y a vraiment à placer le rôle du parent, c'est de sécuriser, bien sûr, mais aussi de mettre le cadre, de dire, bien sûr qu'on a envie, on a 14 ans, on a envie de sortir, on a envie de voir les copains, mais il y a quelque chose qui se joue et qui est planétaire. Et donc, on va, à 14 ans, c'est aussi le bon moment de nourrir chez nos enfants, je pense que c'est déjà fait, en fait, hein, de nourrir une conscience collective et de s'inscrire dans des projets plus grands, voilà, alors bon, là, c'est Covid, mais ils peuvent être sur des projets d'environnement, etc. Donc, ouais, bon, de leur nourrir ça.
Nos mômes de 14 ans, 16 ans, Isabelle Payan, on va commencer à leur parler de l'environnement. Déjà, ça les saoule en temps normal. Pardon, hein, je ne remets pas en cause ce que vous nous dites, mais c'est parce que je me mets à la place des parents qui nous écoutent. Ouais.
Je pense que vraiment, il y en a certains qui ont vraiment cette conscience-là et qu'on peut entretenir. Oui. Une Greta Thunberg, elle a démarré, elle était bien plus jeune que ça. Donc, bien ils ont sûr. Cette fibre-là et je pense qu'ils ont aussi la fibre collective. Ils aiment être en groupe, ils aiment être en tribu. Donc là, pour le moment, ça ne sera pas possible. Ils vont être en tribu sur leurs réseaux sociaux, mais ils vont se retrouver. Il faut aussi nourrir l'espoir de dire, bah, de toute façon, on va être bloqué, peut-être, et dans quelles conditions, on ne sait pas, pour tant de temps, et ça va s'arrêter. C'est pour le moment. Et ce moment-là, finalement, sur l'échelle d'une vie, ça sera peut-être un an de notre vie. Ça nous semble beaucoup parce qu'on est dedans, et ce n'est pas si long que ça, au bout du compte, quoi.
Très rapidement, vraiment, certains nous disent comment parler aux plus petits d'un nouveau confinement aux alentours de 5-6 ans. Ils entendent des mots qu'ils ne comprennent pas.
Alors,
ne pas leur parler d'une punition. Ouais.
Ah non, pas de très punition. Rapidement. C'est vraiment, ouais. de dire on est obligé de rester chez nous pour ne pas attraper cette maladie. On va parler le plus simplement possible et de la manière la plus responsable.
Sans les angoisser.
Et on va surtout essayer de rester le plus confiant possible et en disant c'est comme ça que ça se passe, on fait confiance et du coup d'en profiter pour jouer. Je pense au papa syrien qui faisait rire sa fille quand il y avait des bombes. Et ben nous on va essayer de faire rigoler nos enfants aussi à la maison, même si on n'a pas toujours envie de rire.
De toutes les façons, on aura l'occasion de se reparler, hein, parce que nous on va être aussi à l'écoute de nos auditeurs chaque jour de 14h30 à 15h30 et forcément vous serez avec nous pour les conseils. Merci beaucoup Isabelle Payot. Merci, je rappelle votre site La Fabrique à Bonheur. Et justement, pour les parents qui nous écoutent, il y a nos super devoirs. C'est le parcours d'accompagnement qui aide les enfants à faire du temps des devoirs, un moment de partage et de complicité. Hey, vous êtes contents, les gars? Merci beaucoup, Isabelle Payot.
Merci.
Allez, donc, à l'heure à laquelle on se parle, on ne sait pas vraiment encore ce qui nous attend dans les semaines qui viennent. Mais on va s'employer à les vivre le plus sereinement possible. Et on sera là chaque jour pour vous accompagner et nous accompagner les uns les autres. Nous aviserons en temps et en heure. On se retrouve donc demain, dès 14h30, en direct sur RTL. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À demain.
RTL, on est fait pour s'entendre.